J'ai toujours pensé que mon plan A, soit celui d'être salarié dans un emploi que j'aime plus ou moins, ben, ça allait être ça, ma vie. On se le fait dire depuis qu'on est tout petit, donc on finit par se résigner. Mais j'ai décidé de sauter à pieds joints dans mon plan B, soit celui d'être travailleuse autonome / entrepreneur. Je m'appelle Émilie et bienvenue au podcast Plan B, là où on met notre bonheur au premier plan. Hello tout le monde et bienvenue au 20e épisode du podcast Plan B. Cette semaine, j'ai jasé avec Katou, la fondatrice de Katou Vega Club, une petite épicerie végane à Montréal qui offre du prêt-à-manger gourmand et varié. Katou est passée d'une carrière dans le monde de l'habillement au cinéma à entrepreneur à temps plein. Elle a commencé son entreprise du jour au lendemain après que ses contrats au cinéma ont été cancellés dû à la pandémie. Donc, sans préparation, elle s'est lancée à pieds joints dans son nouveau projet en alimentation. Et ça a pris une ampleur qu'elle n'aurait jamais imaginée. On a donc parlé de son parcours avant Katou Vega Club et aussi de comment ça se passe de devoir mettre en place une entreprise après son commencement, dont les défis que ça apporte au quotidien. Avant qu'on passe à l'épisode, je tiens aussi à vous dire que je tourne mes épisodes en avance, donc c'est pour ça que des fois il y a des références qui font pas vraiment de sens. Là cette fois-ci, l'épisode sort le 30 mai, mais techniquement, ça a été tourné au, genre, je pense que c'était fin mars. Donc c'est pour ça que des fois on parle de trucs qui sont passés pour vous dans le passé, mais pour nous, c'était quand même le futur, là. Donc, voici ce qui explique cela. Donc, sur ça, je vous laisse sur l'épisode. On commence directement dans le sujet. Puis c'est ça, comme j'avais dit, on va parler de ton parcours, autant comme chef habilleuse, donc avant d'avoir ton entreprise maintenant, en alimentation, ouais. Fait que savoir un petit peu comment ça s'est passé. Hein. Puis aussi ton entreprise, je veux en savoir plus tout en détail, là, parce que c'est ça. Moi, je t'ai connue avec, grâce à Justin, hein, qui m'a envoyé ton nom plusieurs fois, en fait, là, pour que je t'invite sur mon podcast. Donc, je trouvais ça...
Mais c'est tellement gentil de sa part. C'est tellement sweet. Vraiment, très apprécié, franchement.
Ben oui. En fait, lui, qu'est-ce qu'il m'avait dit? Ben, en fait, au début, je cherchais quelqu'un qui avait changé ses plans d'avenir là, à cause de la COVID. Donc, le but, c'était vraiment que quelqu'un qui a décidé de se réinventer pendant la pandémie à cause de tout ce qui s'est passé. Hein. Donc là, c'est ça, genre, pour savoir un petit peu, toi, est-ce que c'est à cause de la pandémie que tout ça avait comme changé un peu? Hein?
Absolument, absolument. En fait, pour faire une très longue histoire, le plus court possible, juste pour souligner le fait que la pandémie a fait tout un switcheroo incroyable dans ma vie, c'est que du jour au lendemain, j'étais sur un plateau. On était en train de finaliser ce qu'on appelle le second unit du tournage de Home Alone 180 012. Là, je ne sais plus c'est quoi le... je ne sais pas c'est quoi, à quelle étape on était rendu des Home Alone, mais bon, bref, on était là-dessus et par un beau vendredi, on nous a dit « Restez chez vous, il y a un début de pandémie, tout le monde a attrapé le COVID, c'est une catastrophe, on vous rappelle. » Bref, on nous a un petit peu ghosté, ils nous ont envoyé chez nous, puis tout est resté en plan. Tu sais, les roulottes avec tous les costumes, avec les décors, les accessoires, les studios tout installés, le quartier complet dans lequel on tournait était resté tout en plan en se disant « Bon, ben ça devrait prendre quelques semaines. »
Ouais, c'est ça.
Mais moi, je me suis retrouvée à la maison comme bien d'autres gens qui étaient sur ce plateau-là pour me faire dire au bout d'un certain temps qu'on ne reviendrait jamais finalement. Bref, quand on a pu aller chercher nos affaires, c'est comme si j'étais rentrée à la maison avec tout mon matériel de travail, puis que là, ben, je me suis retrouvée sur le sofa à me dire « Ouais, des belles vacances forcées, j'attends ça, je suis fatiguée, je vais me coucher. » Ça a pris 2 semaines, j'ai reçu un petit texto de gens pour qui j'avais déjà travaillé, qui m'ont dit « Écoute, Katou, on est un petit peu mal pris. Tu nous as servi tellement bien en 2019 pendant 5 mois à la bouffe avec un certain jeune chef que j'assistais, mais que finalement, j'ai fait pas mal toute la partie Montréal pendant que le jeune chef accompagnait le Big Boss dans ses déplacements. Je me suis retrouvée à faire la cuisine en 2019 pendant 4-5 mois à une famille extraordinaire qui avait évidemment les moyens de se payer des chefs à la maison. Et ben je leur avais dit, écoutez, c'est temporaire. Moi, je travaille en cinéma, je suis dans les costumes, c'est ça que j'aime. Puis j'adore faire à manger. Oui, je suis végane, je me débrouille vraiment quand même pas pire. Fait que je veux bien le faire, mais c'est à peu près certain que je retourne en cinéma, donc on s'attache pas. Okay? Ouais. On va mettre ça comme ça. Mais bref, quand la pandémie est arrivée, ces gens-là m'ont recontacté en disant « Écoute, quand t'es parti, ça a laissé un grand vide. La personne qui t'a remplacé, ça a fait plus ou moins l'affaire, tellement qu'on a fermé la cuisine qu'on avait ouverte pour toi. »
Oh, wow!
Là, moi, mon cœur s'est un peu brisé parce que c'était des gens vraiment adorables. puis ils méritaient de manger des bonnes bouffes véganes avec du monde qui prenne soin d'eux et qui ont des petites attentions. Fait que j'ai fait, bon, ben écoutez, oui, ça me tente de revenir, mais écoutez, c'est un brin compliqué, il faut aller faire la file dehors, acheter de la bouffe pour une dizaine, 13, 12 personnes à peu près toutes les semaines. J'ai écouté, laissez-moi faire 2-3 téléphones si les grossistes m'acceptent, n'étant pas une compagnie. Oui, ça va me faire plaisir. Ça, c'est la première étape de début d'une grande aventure.
Bien, c'est ça que je vois, parce que initialement, tu étais chef habilleuse en cinéma, donc oui. Ça n'avait pas rapport du tout avec l'alimentation, même si tu avais quand même l'intérêt au fond de la tête, là. Moi, ça faisait 37 ans, en fait, que tu faisais ça, que tu m'avais dit, hein?
Oui, en fait, j'ai commencé dans les costumes, j'ai gravi tous les échelons, j'ai commencé à nettoyer des bottines dans un atelier de nuit avec des bottines pleines de boîtes pour... Les films d'époque faits par le merveilleux François Barbeau, qui est un grand costumier de l'époque, qui n'est plus avec nous maintenant, malheureusement. Mais bon, j'ai commencé comme ça. J'ai commencé en atelier, ensuite de ça, à faire des travaux de petites mains, de la petite couture, ensuite de ça, des enlignements. Ensuite de ça, j'ai tout connu. J'ai fait toutes les étapes pour m'amener jusqu'au plateau. En fait, quand on sort de l'atelier, on s'en va vers le plateau. Puis le plateau, c'est tout le tournage. Alors, il y a tellement de travail, de préparation avant que les costumes arrivent sur un plateau. Fait qu'il y a vraiment deux mondes, c'est vraiment une équipe scindée en deux. Il y a l'équipe de l'atelier et l'équipe du plateau. Moi, j'ai fait tous les échelons de l'atelier avant de toucher au design. Et ensuite de ça, je suis allée vers le plateau parce que c'est quand je suis arrivée là-dessus, j'ai fait « Ah ouais, pour l'hyperactive que je suis, c'est extraordinaire. 500 figurants habillés en époque, ouais, pas de problème. » Alors bon, bref. En gros, quand je suis arrivée sur le plateau, j'ai eu une révélation et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et encore sur le plateau, au costume, il y a plusieurs échelons à gravir. Puis arriver en tant que chef habilleuse, bien là, je me suis mis à faire de plus en plus des gros contrats. Et de plus en plus, je suis allée vers les contrats américains qui étaient très exigeants, qui demandaient de gérer des grosses équipes d'habilleurs, d'habilleuses, avec des horaires de débiles, avec des costumes complètement flyés, avec beaucoup de cascades, ce qui est tout un... C'est des connaissances qu'on apprend sur le tas, à force d'en faire, à force de travailler avec plein de projets. Et chaque projet est différent de celui du précédent. C'est un apprentissage complètement sur le tas.
Ça prend vraiment d'être autodidacte, d'être créatif aussi. Là, c'est vraiment un monde pour ça. Est-ce qu'avant de commencer dans le milieu de l'habillement, je ne sais pas trop c'est quoi le terme.
Non, c'est ça, l'habillement.
Est-ce que tu savais que tu voulais faire ça quand tu étais plus jeune? Est-ce que tu disais « je veux vraiment aller comme dans le cinéma » ou tu ne savais pas du tout à ce moment-là?
C'est un petit peu particulier du fait que comme j'ai commencé dans les années où est-ce qu'il n'y avait pas des grosses productions, où est-ce que les films québécois s'en faisaient à peu près 3 ou 4 par année, c'était beaucoup une affaire de famille. C'est un peu la même chose aux États-Unis où est-ce qu'il y a beaucoup des dynasties de familles complètes qui travaillent en cinéma. Moi, ma maman faisait des costumes, elle a été designer, elle a eu des boutiques, elle a eu bon plein de choses comme ça, puis... Elle en arrachait beaucoup, beaucoup dans les années 70-80 à faire ce métier-là qu'elle adorait. Alors, elle m'a bien dit de jamais faire ça.
Ah oui.
Elle m'a pas encouragée du tout. Elle m'a dit, c'est terrible, c'est une vie de patachon. Tu vas être cassée toute ta vie, ça va être terrible. Fais pas ça, va à l'école. Bon, bref. Ça donne qu'il y a eu des fois où est-ce qu'elle a eu besoin d'aide, puis c'est moi qui étais là, puis j'adorais ça, puis j'avais quand même quelques skills. Alors, je comprenais vite. J'avais déjà été... J'ai fait une session et demie ou deux dans une école, dans un Marie-Victorin. J'ai détesté ça. J'étais pas du tout bonne à l'école. Moi, j'avais déjà plein d'idées de dessin, de design. Je voulais devenir designer de mode plus que designer en costume de cinéma. Mais arriver sur les plateaux, comme je disais, c'était tellement capoté. Ça allait tellement bien avec ma personnalité de trouble de déficit d'attention qui est capable de se revirer sur un système, qui est capable de faire 1000 affaires en même temps. C'est vraiment un endroit pour les gens qui ont besoin d'action, qui n'ont pas besoin de trop de sommeil. On va mettre ça comme ça. Mais disons que j'avais des prédispositions, mais quand ma mère elle a vu que j'insistais, ben c'est surtout que je me suis lancée vers des gens qui faisaient le même métier qu'elle, mais je lui ai jamais demandé quoi que ce soit parce que je savais qu'elle me dirait non. Donc là, j'ai volé son carnet d'adresse du syndicat des techniciens du cinéma de l'époque et j'ai appelé tous les costumiers. Je leur ai dit « Bonjour, j'aimerais ça venir travailler avec vous. » J'avais 15 ans. Qu'est-ce que tu voulais qu'ils fassent avec moi? C'est d'autres époques aussi. Les gens, ils m'engageaient. Ils me donnaient des sous cash, mais ils m'engageaient parce que je faisais une bonne job. Fait que c'est pour ça que j'ai continué dans cette veine-là très longtemps.
À 15 ans? C'est impressionnant. Enfin, à 15 ans, tu savais déjà qu'est-ce que tu voulais faire, mais tu savais que l'école, c'était pas pour toi.
Eh mon Dieu, non, j'étais pas du tout programmée pour ça. Puis, les milieux du théâtre, les milieux du cinéma, de la télé, si on fait un peu un tour d'horizon, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens comme moi qui ont besoin d'action, qui ont pas nécessairement des aptitudes dans le milieu scolaire. Puis après, sur le tas, super vite, c'est des autodidactes incroyables, des gens hyper débrouillards qui font des millions de bricolages de toutes sortes. Juste les éclairagistes dans les années 80, c'était quasiment tous des électriciens. Mais entre l'éclairage et l'électricité, mettons, de la construction, c'est deux mondes. C'est quelqu'un qui est capable de créer des atmosphères, de créer des ambiances, de recréer les saisons, la lumière qui vient avec l'été, la lumière d'automne, c'est un art incroyable. Même chose pour les costumes, même chose pour le maquillage, les coiffures, les costumes, évidemment, je veux dire, ça prend des gens complètement flyés et ça fait des groupes de gens qui se tiendraient jamais ensemble dans la vraie vie, mais qui ensemble forment un groupe extraordinaire pour pallier aux besoins d'une histoire qu'on doit mettre en image, en mots et en lumière, puis c'est super beau, c'est juste que c'est vraiment pas fait pour tout le monde.
Non, c'est sûr, mais ça me parle beaucoup parce que dans le monde de l'entrepreneuriat aussi, c'est comme ça, c'est beaucoup des personnes qui sont créatives, artistiques, puis qui ils veulent pas être sur les bancs d'école, puis c'est pas une question d'intelligence, là. C'est souvent, on associe l'intelligence à l'école, à la scolarité, mais au final, on se rend compte que c'est pas du tout ça, c'est juste des catégories différentes, là. Moi, l'école, j'étais bonne à l'école, mais j'aimais pas ça pantoute. C'est juste que je le faisais parce qu'on n'a pas le choix, entre guillemets, on peut souvent dire qu'il faut passer par là. Mais à un moment donné, quand on réalise qu'on peut s'accomplir à travers nos passions, notre créativité. Donc là, pendant 37 ans, tu as fait ce métier-là, mais tu as gravi les échelons, comme tu as expliqué. Là, c'est sûr qu'il y a eu la pandémie qui est arrivée qui a fait que le contrat sur lequel tu étais s'est arrêté. Puis, c'était pas prévu que ça reparte à ce moment-là, comme quelques mois plus tard?
On nous prévoyait. En fait, on nous disait que ça allait repartir, mais là, on voyait bien les nouvelles tous et chacun. Puis, les nouvelles, ils nous annonçaient pas qu'on allait recommencer grand-chose, en fait. Puis, en cinéma, ben je veux dire, on est tout le temps un par-dessus l'autre dans des petits endroits exigus pas possibles. Fait que c'est un bel endroit pour attraper le COVID, ça, c'est clair.
Ben oui, surtout au début, là.
Ben, c'est ça. Puis tout le monde ne savait pas comment gérer ça. Donc, c'est devenu une espèce de... C'est devenu... En fait, ça a été arrêté quasiment un an, tu sais, avant que les gens reprennent le courage d'y retourner, installer des protocoles pas possibles. Les premiers à revenir ont été ce tournage-là, qui devait finir parce que le héros du film, c'est un petit garçon. Parce que ça pousse ces affaires-là. Là, tu sais, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une certaine continuité dans le film, dans le tournage. Et si le petit garçon devient un grand garçon, bien, ça devient bien problématique.
Hey, c'est vrai.
Dès qu'ils ont pu, en fait, cette production-là est venue finir son tournage. Mais comme l'hiver était passé, ils n'ont pas pu finir ce que nous, on faisait dehors avec la neige. Tout ça, ils n'ont pas pu vraiment la finir comme ils auraient voulu. Bref. Ils ont fini le film un petit peu en catastrophe, mais moi, j'étais déjà les deux pieds dans mon nouveau projet, ce qui fait que je faisais déjà à manger. J'avais pris un genre de contrat, donc, avec la jolie famille, gentille famille dont je parlais un petit peu plus tôt. Puis, ben, je leur ai dit, écoutez, prenez quelqu'un d'autre. Là, c'est pas la partie la plus difficile du tournage, donc n'importe qui a un peu de connaissances peut y aller. Ce qu'ils ont fait, ils ont engagé quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé, ça s'est super bien terminé. Mais moi, pendant ce temps-là, j'avais les deux pieds bien ancrés dans mon nouveau projet. Et mon nouveau projet, c'était de faire à manger végétalien, parce que moi, je suis végétalienne depuis 2010.
OK.
Puis je m'étais toujours dit que quand je serais vieille, décrépite et que je serais plus capable d'être sur des plateaux, ben j'aurais un petit boui-boui végétalien où est-ce que je ferais des sandwichs puis que je verrais mes amis puis que ça serait bien chill.
Puis finalement, c'est pas mal ça qui se réalise. On réalise que des fois, on a des pensées qui nous popent dans la tête, là, puis ça se concrétise, là.
Oui, mais c'est jamais comme on aurait pensé. Je sais pas si t'as remarqué, là, mais quand on se fait des plans, c'est rare que ça arrive 100% comme on avait pensé. Ah, hey, écoute, on sait que t'as perdu ta job. On s'imagine très bien que les gens au cinéma, ils font plus rien. La grande panique était située au niveau des fournisseurs de légumes, fruits, de denrées qui fournissent à tous les restaurateurs parce que tous les restaurateurs ont mis la clé dans la porte. Mmh. Alors, les grossistes comme les Obus, Hector Larrivé, tous les gens qui... en fait, j'ai 12 000 noms en tête, là, mais il y a eu une panique au sein de ces compagnies-là. Ils se sont mis à soudainement ouvrir leurs portes au public. Particulièrement à Hector Larrivé, moi, que je zieutais. Mon Dieu, ils ont juste tous les plus beaux produits de la vie, puis ils font affaire avec plein de beaux maraîchers québécois. Ils promouvoient beaucoup les produits d'ici. Bref, ils ont un service extraordinaire. Je me suis dit, je vais appeler. Une fille s'essaye, comme on dit. Pas de numéro d'entreprise, j'étais pas incorporée, pas en affaires. Moi, j'ai toujours été employée au sein du cinéma, fait que je connaissais pas tout ça. Et quand je les ai appelés, en fait, ils étaient tellement contents. Oui, oui, madame, pas de problème, on vous organise ça.
Oh, ouais. Ah,
fait que là, j'étais capable de commander des crêpes de chou-fleur, des crêpes de tomates, des crêpes de plein d'affaires au prix du gros, en fait. Donc, j'ai pu appeler ma petite famille et leur dire, écoutez, ça me tente de cuisiner pour vous. Mais je ne veux pas cuisiner juste pour vous. J'ai envie de cuisiner pour plein d'autres mondes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un menu. Vous allez faire votre choix. Puis, il n'y aura pas de demande spéciale comme je faisais avec vous autres à l'époque. Parce que je me dis, si jamais on est en pandémie pour toujours, ben au moins, j'aurai commencé à pratiquer mon nouveau métier, qui sera traiteur vegan.
Ben oui.
Mais là, j'ai pratiqué chez moi pendant ce temps-là. Puis là, il ne fallait pas le dire. Mais là, je le dis. Bon. Fait que là, pendant quelques mois, j'ai fait ça de chez moi. Puis là, ça avait comme plus d'allure parce que la demande s'est mise à exploser dans mon entourage. Les gens, pendant le début de la COVID, je ne sais pas si tout le monde se rappelle, mais on allait faire la file dehors à moins 20. Il faisait fret et tout le monde capotait. Tout le monde avait peur de tout le monde. Quelqu'un toussait, tout le monde partait en courant. Aller faire les commissions, c'était hyper anxiogène. Personne ne voulait y aller. Bref, moi, je me faisais livrer le stock chez nous. Puis ce que je faisais, c'est que je typais super bien les livreurs. Ben je me disais, ils affrontent tout le monde. Fait que là, écoute, ils arrivaient chez nous, je leur donnais un bon tip, je leur donnais des bons biscuits tout chauds. Oh. Fait que je me suis fait plein d'amis au niveau de la livraison chez certains grossistes. Puis là, on a pu commencer donc à faire ce qu'on fait maintenant de façon plus sérieuse. Mais là, à un moment donné, ça a débordé, ça n'avait plus d'allure. J'avais des plaques à biscuits sur les 3 étages de la bâtisse dans laquelle j'habite. J'ai des amis qui avaient des fours. Puis là, ben, un moment donné, on s'est regardé, mon conjoint et moi, qui n'arrête pas de m'aider cette histoire-là, qui m'aide avec la bouffe, qui m'aide avec les commandes, qui m'aide avec les livraisons, qui m'aide avec tout ce qui tourne autour en périphérie de la cuisine. Bon, bref. Et on s'est regardé, on a dit, il faut sortir d'ici. Il faut aller se trouver une cuisine. On en est là.
Bien, je comprends. Ça a commencé, tout s'est fait vraiment rapidement. Comment tu as fait pour trouver les clients, en fait, autres que cette famille-là? Parce que c'est sûr que c'est quand même aussi un défi au début là, de trouver sa clientèle. On peut avoir quelques personnes par-ci, par-là, mais de là à ce que ça explose, c'est impressionnant.
Bien, en fait, ça explosait selon ce qu'on était capable de faire à deux. Il ne faut pas l'oublier. On était juste deux au début là-dedans. Là, moi, je veux bien travailler 17 heures par jour. J'ai pas de problème avec ça. Je le faisais déjà en cinéma. C'est juste que là, fallait établir tout. Il fallait tout établir, un système de distribution du menu, penser à des menus, voir qu'est-ce qu'il y a dans les magasins, qu'est-ce qu'il y a chez les grossistes, parce que pendant la pandémie aussi, de toute façon, tout s'est mis à bloquer partout. Donc, il y a plein de produits qu'on ne voyait plus, qu'on n'avait plus. Comment facturer tout le monde? L'argent, il arrive d'où? Il faut faire des virements. Écoute, on a vraiment comme... Moi, je ne m'étais jamais partie en affaires, là, fait qu'il fallait que j'apprenne tout seul. Ceci dit, quand tu arrives du monde du cinéma, tu deviens une bombe d'organisation.
Ah ouais?
Comme moi, c'est vraiment si j'ai une chose dont je peux me vanter dans vie, puis je me vantais en me donnant une bonne bine sur le dos, en disant bravo, ma belle Catou, je suis une bombe d'organisation et de prévention.
ça prend vraiment ça, là, dans le monde de l'entrepreneuriat, là.
Ben, ça aide, c'est clair que ça aide beaucoup. Mais bon, toute la partie administrative, je le faisais moi-même. Tu sais, je leur ai envoyé... ils ont été... Tous les gens qui nous suivaient au début étaient vraiment patients parce qu'ils essayaient de comprendre ma paperasse. Tout était fait pour des grilles Excel. Il fallait des bons de commande qu'il fallait me renvoyer. C'était ardu, mais les gens étaient tellement contents de ce qu'ils recevaient. Ils en parlaient. Alors, c'est devenu... Ça a explosé beaucoup par le bouche à oreille. J'ai parti, à un moment donné, un club, une page privée Facebook, et puis j'invitais des gens à venir se joindre à nous, puis je leur expliquais que c'était privé. Donc, que c'était vraiment du gentleman's agreement. Parce que j'avais pas de compagnie encore. Donc, je faisais ça de chez moi, avec amour et tendresse et discernement aussi, par exemple, parce qu'il y a des gens du MAPAC. Là, à un moment donné, c'est là qu'on s'est dit, ça n'a plus d'allure. Faut sortir de la maison. Ça a beau être propre chez nous. On frottait comme des malades, tout était impeccable tout le temps, tout était lavé, stérilisé. Je veux dire, on a fait du zèle. Mais là, on s'est bien rendu compte assez vite que ça n'avait plus de sens avec la demande qu'on avait parce que la demande, à un moment donné, quand c'est rendu que tu fais entre 20 et 30 plats par jour à livrer, puis il faut que ça soit prêt à telle heure, puis que tu fais ça dans une petite cuisine avec 4 petits ronds et un petit poêle, bien... C'est clair que c'est pas la même chose qu'une cuisine commerciale où est-ce que tu as 8 ronds, puis tu as 4 fours, puis que tu es capable de remplir à peu près tous tes effectifs avec un élément qui chauffe, là, puis que tu deviens méga efficace. Alors, à un moment donné, on a commencé à envoyer un petit message. On cherche des cuisines, on cherche un local. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Entre-temps, évidemment, c'est toute la demande. Toutes les demandes pour devenir une entreprise officielle.
Ouais.
De comment faire des paiements par semaine pour des employés. On a tout appris ça sur le tas. Puis là, à un moment donné, moi, j'ai dit, c'est clair que cette partie-là, je vais vomir. Ça va me faire vomir par terre. Je vais être malade. Je veux bien faire des factures. Je veux bien calculer mes dépenses, voir combien j'ai fait, combien il est sorti. Ça, je suis capable de le tenir. Mais plus que ça, là, ish. Quand ça commence à rentrer dans la paperasse plus sérieuse de comptabilité, là, j'en pouvais plus. Bref, on a trouvé une cuisine pour apprendre que finalement, c'était la cuisine de la merveilleuse gang de Café Dei Campi, qui est bien connue de la communauté végane de Montréal.
Ben oui.
C'est un café impeccable avec un staff extraordinaire. Bref, ces gens-là, avant que nous autres, on rentre là, c'était souvent l'adresse... entre guillemets, maman de beaucoup de food trucks. Ils se sont beaucoup, dans les 6 dernières années, ils se sont beaucoup mis chum avec la communauté des food trucks qui, eux, ont besoin d'une adresse civique pour faire leur prep et avoir le droit d'opérer, donc, un food truck. C'est comme ça que se sont connus la belle gang des aliments Micorason.
Oui.
Qui ont été dans les cuisines, en colocation, avec la gang de Dei Campi. Bref. Là, Raphaël des Aliments de Corazon était parti depuis déjà un petit moment. Ils se sont trouvés des locaux plus grands parce que ça devenait ingérable pour eux. C'était trop petit, ils étaient trop à l'étroit. Et il n'y avait plus de colocataires, mais on a un ami en commun qui nous a dit, Katou, la cuisine, ils attendent rien que ça d'avoir des nouveaux colocataires. Mais... ils ont fait l'achat d'une bâtisse, ils veulent déménager et habiter le haut de leur bâtisse pour avoir le local commercial du bas pour réouvrir leurs locaux de leur nouvelle pâtisserie dans ces locaux-là, en fait. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est aussi pas juste un coloc, mais quelqu'un qui reprendrait la place telle qu'elle est pour continuer et donner la chance à une autre compagnie végane de faire leur petit bonhomme de chemin. Okay. Ça, c'est le grand bout de l'histoire. Ça, c'est le bout technique de l'histoire. Fait que nous, ce qu'on s'est dit, le deal qu'on a eu, c'est on rentre, on voit si on aime ça, puis à une telle date, on dit oui ou non, est-ce qu'on reprend la cuisine et tout le Bataclan et le petit local en avant qui donne en fait Pignon sur rue, qui était leur café. Qu'on est rentré là-dedans, c'est une cuisine qui fait une bonne job de cuisine pour toutes celles qu'on a visitées, qui étaient vraiment assez pour me décourager d'aller manger au restaurant.
Ah, oh ouais, comme c'est par rapport à l'hygiène ou. C'est. Ouais, ça donne pas envie, là.
Non. J'ai vu des choses, puis je me suis dit, bon, on voit pas les choses de la même manière. Donc, bref, on a accepté. Et on a décidé de reprendre la place. On a eu beaucoup de retard dans nos projets parce que Isabelle et Nico, avec leur grand projet de rénovation avec la pandémie, tout a été chamboulé. Il n'y a rien qui est arrivé dans les dates. Donc, notre colocation a duré plus longtemps qu'elle le devait. Nous, on a pas mal remis des choses à plus tard, ce qui, des fois, nous faisait un peu grogner. Mais bon, en même temps, regarde, nous aussi, c'était pas toujours évident de trouver des gens pour faire les travaux. Mais bref, tout ça étant réglé maintenant, là, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de prendre ce qu'eux utilisaient comme un café. On a décidé d'en faire un comptoir et une petite épicerie.
Oh, ouais!
Donc, entre-temps, ben il y a eu le... On a continué pendant l'année qu'on était dans la cuisine, entre guillemets, « ghost kitchen », si tu veux, à prendre les commandes de tout le monde qui nous passait des commandes. Bref, à continuer à parler un petit peu plus de nous-mêmes sur Facebook, sur Instagram, bon, évidemment, tous les lieux communs de où est-ce qu'on peut se faire un petit exposure soi-même sans nécessairement arracher la vie et le porte-monnaie, là. Fait qu'on a fait ça comme ça. Puis, bon, ben la journée qu'on a eu un numéro d'entreprise, qu'on a commencé à faire les choses comme il le faut, qu'on a commencé à faire affaire avec plus de fournisseurs, ben là, on a ouvert les valves. On a fait un site Internet, on en a parlé beaucoup plus, on l'a annoncé partout. Puis, ben là, ça s'est mis à grossir un petit peu plus. Puis, quand la boutique a finalement été ouverte, ben là, c'était un petit peu avant les fêtes. Alors, on a eu le bel engouement du début. Ensuite de ça, l'engouement du temps des fêtes. Mais nous autres, pendant le temps des fêtes, on a pris le temps des fêtes au complet de congé parce qu'on était sur les rotules. C'est comme si ça faisait 2 ans qu'on faisait du 7 jours sur 7.
Ben moi, ça montre que ça fonctionnait bien.
Oui. Mais là, évidemment, ça, c'était sans... Tu sais, quand c'est pas ton métier, il y a plein de choses à régler que tu fais, qui te prennent en fait une semaine quand ceux qui ont de l'expérience le feraient en 2 jours, tu sais.
Ouais.
Fait que je t'avouerai que c'est clair qu'on a beaucoup tourné en rond. Côté budget, on était super limité parce qu'on a fait ça avec nos sous. On a tout fait à l'envers, en fait, Émilie. C'est ça qui est arrivé aussi. C'est que on a commencé à cuisiner tout de suite. Bing! On a commencé à faire des menus. Bam! Ensuite de ça, on a eu un peu de succès. Boum! Tu sais, c'est comme ça n'arrêtait pas. On n'avait comme jamais le temps d'aller prendre un cours d'entrepreneuriat, faire des demandes de subventions, faire des plans d'affaires. On n'a jamais fait ça. Jamais, jamais.
Même à ce jour, vous n'avez pas eu de subvention, rien du tout, là?
Non. Là, dernièrement... Non, non, mais là, ça commence à paraître. C'est comme là, de toute façon, en parlant avec les amis qui, eux, l'ont fait et ont fait les choses dans le bon ordre, là, j'ai commencé à faire... OK, là, je sens que janvier, février, mars, ça va être la saison morte pour tout le monde. C'est le temps ou jamais de sauter à pieds joints dans toutes ces histoires-là de paperasse, de gens qui peuvent nous aider, nous donner un coup de pouce. Bref, tous mes amis avaient déjà tout fait ça dans le bon ordre. Tous ceux que je connais qui se sont lancés dans la bouffe. Alors, j'ai eu des bons cues par la bande. Là, ces cues-là, maintenant, est-ce que ça va servir? Pour l'instant, je ne sais pas. On a eu une première petite subvention pour nous aider avec notre marketing.
Ah, c'est bien ça?
Oui, c'est bien. On ne sait toujours pas où est-ce que ça va nous mener. C'est la partie un peu spirituelle du marketing. On s'entend, c'est pas du tout le marketing sauvage de la pancarte et de passer des flyers. Et de...
Non, c'est beaucoup en ligne.
Puis même pas en ligne, je veux dire, c'est vraiment plus comme comment définir notre marque. On ne l'avait jamais fait, ça.
Ah, oh, fait que c'est vraiment de retourner aux bases vraiment du marketing, de connaître sa mission, tout ça, là.
Oui, c'est super douloureux. Bref, mais ça fait un ménage dans les idées qu'on n'avait jamais fait.
Ouais.
Puis c'est des choses auxquelles on avait déjà toutes pensé, mais on s'est beaucoup fait une colonne de choses importantes à faire, mais pas urgentes. Chose importante et urgente. Ça, c'est ça, hein? C'est pas mal ça qu'on fait depuis le début. Alors, je te dirais que se partir en affaires, c'est tout au contraire aussi de Justin, avec qui est une connaissance commune, que les merveilleux Caramel Melgood. Lui et ses comparses ont fait tout dans l'ordre des choses.
Ouais.
Génial de les voir aller, je trouve ça magique. Je prends des notes, je suis comme, oh mon Dieu. C'est clair que c'est. Si j'avais pas eu un petit peu de sous de côté, j'aurais pas pu faire tout ce qu'on vient de faire si j'avais pas eu mon amoureux slash collègue slash associé qui m'avait poussé, aidé, encouragé, soutenu, j'aurais pas pu faire ça. Entre-temps, j'ai plein d'amis autour de moi qui perdaient leur job. Est arrivée une amie, une connaissance du temps du cinéma, qui était aussi dans le département des costumes, qui, elle, a complètement lâché le monde du cinéma il y a à peu près 10-11 ans. Et elle est devenue pâtissière.
OK.
Donc là, un jour, elle m'a commandé de la bouffe, puis on a jasé, ce qui devait durer 15 minutes a duré 2 heures dans le passage chez nous, en bas, dans l'entrée du bloc. J'ai dit, mais t'es pâtissière, toi, ça te tente pas de venir faire toute la partie sucrée avec moi? Moi, la sucrée, je le fais depuis le début, les gâteaux, les desserts, les biscuits, mais j'ai des millions de recettes que je suis qui font la job, mais toi, ça te tenterait pas de venir jouer avec nous si jamais ça fonctionne, mon affaire, là? Fait qu'elle a dit oui, puis en plus, elle est allée se prendre un cours sous mes conseils avec l'académie, Plant Academy, qui s'appelle le Ruby.
Ah, ouais, OK.
Qui est super connue. En fait, qui est une des seules académies plant-based reconnue partout dans le monde.
Wow, je connaissais même pas.
Puis elle est dans nos cuisines depuis, puis c'est elle qui s'est rendue la fille du sucre, comme on l'appelle. C'est elle qui fait tout le sucré. Fait que le noyau dur de Kato Vega Club, ça a été pendant 1 an. Mon conjoint et moi, pardon, Eddie Philanthrope de son nom, qui est un musicien et un chanteur, auteur, compositeur extraordinaire. Et vous irez voir.
Sur YouTube?
Ben, il est sur YouTube, mais il est aussi sur à peu près toutes les étiquettes de musique. On a tout mis en ligne. Mon Dieu, j'ai une espèce de blanc de mémoire complètement débile, là. Mais bref, comme je disais, mon chum m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans tout ça. Et sans lui, ben, il ne serait pas passé la moitié des choses. Puis quand la belle Marie-Josée a décidé de venir jouer avec nous autres, elle était la première avec nous deux dans la cuisine du Café des Campi. Puis on s'est mis à travailler à trois comme ça pendant un grand bout de temps. Puis à un moment donné, on s'est mis à avoir un petit peu trop de commandes. Fait que là, moi, j'y arrivais plus. Fait qu'on a rentré une autre petite main qui a fait un bon 5-6 mois avec nous autres. Puis à un moment donné, juste avec elle, ça marchait plus. J'avais encore besoin d'aide. Fait que arrivée la femme d'un de nos nouveaux clients qui cherchait un boulot et qui avait déjà travaillé dans les cuisines, puis elle était super willing de venir avec nous autres. Et moi, tout ce temps-là, on entendait juste parler de difficile de trouver des gens pour aller travailler en cuisine. Moi, le monde cognait à ma porte pour venir travailler avec nous. J'ai fait, mon Dieu, je suis donc bien chanceuse.
Ça montre à quel point c'est important d'être bien entourée, d'avoir des contacts, d'être aussi quand on est nous-mêmes une bonne personne bienveillante puis qu'on attire de quoi de positif, là, mais au final, les gens viennent à nous. Hein, ça paraît à travers l'histoire que tu me racontes. Là.
Ben oui, puis en même temps, moi, je viens d'un milieu un peu all loose hand. Je veux dire, le milieu du cinéma, c'est un milieu où est-ce que ça a beau être très dur, c'est super tough sur le physique, c'est tough sur les heures de présence en plateau, puis tout ça, mais tu sais, quand t'es 300 personnes tout le temps ensemble, 200 personnes, 150 personnes, c'est toujours les mêmes pendant X temps, puis c'est super intense, c'est comme si ça devenait ta famille pendant le temps du tournage, puis tu gères des crises, tu gères des grands moments de bonheur, tu gères des millions d'affaires, tu sais, fait que c'est comme si arrivé dans la cuisine, on était juste 4, c'était facile pour moi de le faire, tu sais, on a eu des petites crisettes à gérer, on a eu beaucoup d'inquiétudes, plein d'inquiétudes, on a eu des fois, bon, évidemment, toute la partie de passation de la cuisine entre le Café des Campis et Kato Vega Club, ça, c'était une première pour moi, c'est une première pour eux aussi. C'est pas tous les jours qu'on gère l'achat d'équipement de cuisine et, bon, bref, ça se fait pas sans heure, mais ça s'est pas fait dans le malheur non plus. Mais, tu sais, c'était beaucoup de petits obstacles à surmonter, je te dirais.
Ouais, c'est sûr.
Tout en faisant l'apprentissage de c'est quoi être entrepreneur, c'est quoi être une boss. C'est quoi, en plus de ça, penser à des super menus, varier la demande, parce que il y a ça aussi au niveau des menus. Moi, je suis pas mal tout seul à penser à ça, cette partie-là. Au niveau maintenant de l'exécution, thank God, j'ai de l'aide, parce que sinon, je pourrais pas faire ça toute seule, c'est impossible. Puis, ben, ça prend quelqu'un qui est en périphérie de la cuisine pour justement les livraisons, les courses, aller chercher des trucs chez les fournisseurs. Bon, bref, des millions de choses, l'entretien, la réparation. Fait que, tu sais, c'est clair que ça prend une équipe, là, tu peux pas faire ça tout seul, c'est impossible.
Ça amène des bons points. C'est ça, c'est l'entrepreneuriat, il y a tellement de défis, on peut pas tout faire tout seul, puis souvent, on veut faire ça tout seul au début parce qu'on n'a pas les moyens de payer quelqu'un ou quoi que ce soit, mais parce que ça n'ira jamais loin, là, si on est tout seul pour tout faire. Le côté administratif, là, on s'en arrache les cheveux, là, déjà, là, toute la comptabilité, là. Fait que déléguer.
Moi, j'ai réglé ça. Une affaire dans la vie, je savais que je pouvais pas tout faire. La partie mathématique et administrative de l'aventure, à un moment donné, j'ai lâché un grand cri de détresse sur Facebook et j'ai dit « Ah, je cherche quelqu'un capable de nous gérer toute petite entreprise en restauration avec du monde qui n'ont jamais fait ça et qui ont certaines difficultés et rigidités d'apprentissage face à tout ça. » En fait, j'ai pas tant le goût d'en apprendre. J'ai le goût de laisser ça entre les mains de quelqu'un en qui je peux avoir confiance et qui va me gérer. Carrément. Mais là, on est tombé sur la plus fine fille du monde entier. Puis ça fait partie de notre équipe externe, si tu veux. Puis elle nous a, mon Dieu, elle nous a tellement facilité la vie. Moi, elle m'a tellement enlevé un poids incroyable sur les épaules. Puis là, elle est en train de nous fabriquer un humain. On doit changer de monde. C'est correct. On va la reprendre après qu'elle a fini de gérer son bébé humain. Ben c'est ça. En gros, ça ressemble à ça. Là, pour l'instant, depuis le 16 novembre, on a la boutique en avant. Et la boutique en avant, ben comme je disais, il y a eu l'effervescence de la fin de l'année. Puis là, ben il y a l'espèce de moment mort du début de l'année, comme si la même chose partout. On le prend pas personnel. On n'est pas en train de se dire « Ah, puis personne nous aime déjà. »
Mais non, c'est ça.
Mais on s'entend que janvier, février, mars, dites-le à tous ceux qui veulent bien l'entendre, c'est le moment de faire des choses qu'on remet à plus tard.
Mais j'aime ça parce que c'est super important. Puis c'est sûr qu'on veut faire les choses dans l'ordre. On veut commencer par la structure, la base, tout ça, puis ensuite évoluer. Mais des fois, il faut prendre, c'est quoi l'expression? Il faut prendre la balle au rebond. Il faut prendre l'opportunité quand elle se présente. Puis, ouais. Comme tu dis, là, il y a le moment, en ce moment, que vous pouvez vous concentrer sur les bases et tout ça, puis c'est correct aussi. Donc, c'est pas une suite qui est logique habituellement l'entrepreneuriat, mais c'est quand même votre réalité. Puis moi, je trouve ça bien correct aussi. Là. C'est sûr que peut-être que vous auriez sauvé du temps sur certaines choses, si ça avait été fait différemment, mais faut pas avoir de regrets non plus.
Il n'y a pas de regrets, mais il y a des choses, tu sais, tu es obligé de prendre des notes, par exemple.
C'est pas l'introspection, oui.
L'introspection, puis c'est pas juste ça, tu sais, des fois, il y a des gens qui nous disent des choses, faites attention à tel truc qui s'en vient, dans le futur, il y a ça qui risque d'arriver. Puis, tu sais, quand t'es tout le temps dans l'urgence, t'as une façon de gérer les choses.
Ouais.
Quand t'es en préparation, tu peux t'imaginer 152 scénarios et trouver une solution aux 152 scénarios. Quand t'es dans l'urgence de produire, t'as pas ce recul-là. Donc, tu fais des dépenses que tu crois intelligente. Il y en a que tu fais pas parce que tu dis que c'est pas urgent, mais c'est pas toujours le bon ordre. Il y a des choses que j'aurais dû accepter de faire avant, mais je me suis toujours dit « Ah, je dépenserai pas d'argent pour ça, on va attendre, voilà. » Ou la fabuleuse gaffe de beaucoup de gens qui partent une entreprise et qui veulent avoir des employés mais qui n'ont pas beaucoup de sous, qui décident de prendre le salaire qu'ils se seraient eux-mêmes octroyé pour le donner à quelqu'un d'autre et devenir une personne sans salaire.
Oh non.
Non, mais attends, là, moi, je ne savais pas ça. Fait que là, je le dis haut et fort à tous ceux qui t'écoutent. Oubliez le Catou Vega Club, oubliez Catou Gélina habilleuse, oubliez tout ça. Ici, conseil d'amis. Si vous partez en entreprise, donnez-vous un petit salaire, même un salaire minimum.
Oh oui.
Comme ça, vous ne serez pas un rien du tout aux yeux de vos banques et ils considéreront que vous êtes en mesure de rembourser des prêts, être éligible à certaines subventions, être éligible à certaines aides de genre ceux qui aident les banques à aider les entreprises. Mais bref, dans mon cœur très pragmatique, je me suis dit, je préfère prendre les sous que je me serais octroyé pour les donner à une superbe pâtissière extraordinaire qui va nous faire plein de desserts avec des beaux sucres vegan. Il n'y a pas de filtre, bon char, on check toutes les affaires, on est super bon. Mais que de m'octroyer un salaire. Et bien ça, ben c'est une gaffe. C'est une grosse gaffe, il ne faut pas le faire. Voilà, je l'ai
dit. Puis même sur le autre que le côté financier de la chose, moi c'est aussi de me dire, À un moment donné, là, on doit se tanner à force de ne pas avoir d'argent qui rentre pour nous, de travailler un peu dans le vide, entre guillemets, parce qu'on le sait qu'il y a de quoi de concret, puis on sait que ça va venir, mais à un moment donné, c'est aussi une motivation de se dire qu'on se donne un salaire, là, qu'on mérite d'être payé.
bien sûr, mais comme je disais, moi, j'y ai pensé, mais sur le coup, je me disais, je voyais les chiffres, tu sais, se balancer, me rassurer, je me disais, OK, c'est un bon choix, bravo, Katou.
Non, mais en même temps, j'aime ça que tu parles de ton expérience qui est des côtés un peu plus négatifs qui s'est passé, les obstacles que tu as vécu, parce que c'est ça, l'entrepreneuriat, c'est que c'est pas tout rose, puis c'est rare, les entrepreneurs qui parlent de la réalité. Souvent, là, on voit des business, là, ça a l'air de bien marcher leur affaire, là, tout roule, puis comme, ça se peut pas, tu peux pas être capable gérer tout seul sans pépin, là.
À un moment donné, quelqu'un m'a dit, tu sais, Katou, quel que soit ton rêve d'entrepreneuriat, prépare-toi, c'est 2 ans d'endettement sauvage. 2 ans, j'ai fait vraiment avant de voir du profit. Il dit, en fait, c'est surtout quand tu travailles avec le public, quand tu es tributaire de la météo, quand tu es tributaire de plein d'affaires, tu sais. C'est pas vrai que tout va être parfait du jour au lendemain. La première année, c'est de l'endettement comme une hémorragie parce que tu fais rien que payer tes permis de détaillant, tes cours pour devenir je sais pas quoi, soudainement, évidemment, il y a tout ce qui s'appelle dès que tu as des salaires. Les salaires viennent avec des déductions à la source. Hey, à un moment donné, tu fais comme, OK, avant le bill d'hydro puis d'énergie, là, il y a 10 millions d'autres affaires à gérer, là.
Ah ouais.
T'es pas capable d'accoter tes mensualités, là, les frais fixes, là, c'est vraiment quelque chose, puis ben ça peut devenir des sources de stress pas possibles, tu sais. Puis c'est surtout que tu te dis, ben OK, je vais accoter ça comment, à part vendre un rein ou...
faut pas se rendre là, il faut pas vendre de rein, là.
je suis trop vieille pour faire des niaiseries illégales, pour faire un gros coup d'argent, c'est pas dans ma nature. Bon, je fais bien des mais... À un moment donné, il fallait que je m'assoie avec ma petite madame administratrice puis qu'on fasse des calculs très, 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 très glaciaux. C'est temps pour ton tu sais, vraiment faire comme un vrai budget de base puis faire comme, OK, tabarnouche, OK. Ah oui, dans la cuisine, on va aller en faire des pâtes puis on va aller en faire des lasagnes puis on va aller en faire des, tu sais, pour vendre notre stock qui est délicieux. Puis, ben moi, je me fais beaucoup chicaner parce que je fais des trop grosses quantités. Je fais des grosses portions.
Moi, c'est pas moi qui va chialer. En tout cas, j'adore ça parce que je suis gourmande. Puis souvent, je trouve que les portions de prêt-à-manger, c'est pas assez gros pour mon appétit.
Non, OK. Alors, tu le dis très poliment. Moi, ce que j'arrête pas de dire, c'est que moi, j'ai l'impression de payer pour des échantillons.
Ah, tellement!
Moi, j'ai un appétit d'ogre et j'ai toujours entendu des non-véganes, des omnivores, dire « Ouais, quand on va manger des restaurants véganes, j'en sors de là, puis tout ce que je veux, c'est manger une pointe de pizza. Après, j'ai tout le temps faim. » Et là, j'ai fait « OK, ben ça, c'est retenu. Jamais les gens vont sortir de chez Katou Vega Club en disant ça. En général, les gens vont faire « Ah, j'ai trop mangé! » Fait que c'est ça que je veux entendre. Ben, pas parce que c'est bien de trop manger, mais c'est parce que je veux surtout pas que les gens pensent que c'est restrictif, que c'est de la diète. Vegan, en général, il y a beaucoup trop de monde qui ont associé ça à santé. Ça ne l'est pas nécessairement. D'ailleurs, à ce titre, si tu commences à faire des recherches hashtag vegan sur Instagram, tout ce que tu as, c'est des pages de desserts à 90%.
C'est vrai. Maintenant, là, c'est fou. C'est tout un peu la même affaire qui revient. T'as les muffins, puis les mug cakes, puis tout ça, là, c'est les pâtisseries.
Toujours. Et les smoothies, et les smoothie balls, et ci, et ça. Et c'est toujours la même affaire. Sauf que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, ça boit du sucre bio, de canne, de whatsoever, ça reste que c'est du sucre.
Ah ouais.
C'est du gras. Ça boit du gras animal, du gras végétal. Le gras végétal est peut-être un brin moins nocif une fois cuit, mais ça reste qu'à un moment donné, tu sais, quelqu'un qui se bourre la face de plein d'affaires frites. Tu sais, du junk food, c'est du junk food. Là. Si tout est frit, tout est en panure, excuse-moi, vegan ne veut plus dire santé. T'sais.
Non, mais c'est le fun de voir qu'on n'a pas besoin de se restreindre, que si on a un craving de quelque chose, que c'est possible d'aller le chercher. Puis ça vient chercher aussi les non-véganes, justement, les omnivores, tout ça. Là, ben, ils peuvent manger de la bouffe vegan sans sentir qu'ils mangent de quoi? De grano, par exemple.
Exactement, mais ça, on s'entend que ça a explosé juste un peu avant la pandémie. Même dans le fine wine and dine, malheureusement, il y a des beaux restaurants qui ont fermé, mais bon, ils vont ouvrir ailleurs. Mais c'est autant dans le, justement, comme je dis, dans le fine wine and dine ou dans la malbouffe, entre guillemets, ou, tu sais, des petits réseaux de places où est-ce que tu peux t'acheter un truc sur le pouce. Il y en a plein, tu sais. Puis il y a de plus en plus d'endroits omni qui offrent des beaux choix de plats vegan. Bon, on s'entend que c'est cuit sur la même plaque que le burger de bœuf à côté, mais c'est...
Ouais, souvent.
Un beau A pour l'effort, comme on dit, mais c'est ça. Bref, c'est une ville où est-ce que c'est possible de manger vegan dans tous les sens du mot et avec un choix quand même assez incroyable pour une petite ville. Mais comme je disais, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est juste des affaires granoles avec des pousses, puis ça fait que ça rejoint les omnis qui ont envie de se gâter puis de manger des bonnes frites puis des burgers. Fait que ça, si on peut les avoir de même, c'est bien parfait.
Ben oui, donc là, tu fais des plats comme prêts à manger, comme pour avoir à la maison, t'as le côté boutique, explique-moi un petit peu tout ce que t'as là, en fait, parce que je savais même pas qu'il y avait la boutique.
Alors, bon, officiellement, on a l'espèce de boutique slash épicerie slash traiteur au 1360 Rosemont, coin de la Naudière, dans les anciens locaux du Café Delta. C'est devenu une petite épicerie, donc, dans laquelle on va retrouver plein de produits de tout ce qu'on connaît qui est vegan, donc les produits de, justement, Mikorason, les produits d'épicerie Umami, Umami Ramen.
Ah, oh, yeah!
Évidemment, j'ai rentré les produits Le Grand, on a des jus, des belles petites compagnies, bon, évidemment, les loupes, les Matéina, toutes ces petites affaires-là d'épicerie, le fun à grabber, puis prendre, puis manger on the go. On a aussi, moi j'ai décidé un jour que si un jour j'avais une épicerie vegan, c'était dans le but que quelqu'un aussi qui n'est pas vegan, qui s'est fait offrir, mettons, le livre à Looney ou le livre de Jean-Philippe pendant le temps des fêtes, le beau livre de recettes, et qui dit « Moi, je vais essayer telle affaire, mais je ne sais pas c'est quoi du agar-agar, ou je ne sais pas c'est quoi de la farine de blé, de je ne sais pas quoi. En as-tu, toi, de ça ici? » La réponse est oui. Tous les produits dont tu as besoin quand tu es vegan, les produits de base, je les ai dans ma petite épicerie.
Hey, c'est bon à savoir, ça.
Oui, c'est pas des grosses quantités, c'est vraiment une toute petite épicerie encore pour l'instant. Dans les autres frigos, il y a tous mes produits. Je fais des limonades. J'ai 6-7 sortes de limonades. Je fais des électrolytes. Je fais des lattés, matcha latté. Je fais des golden milk. Il y en a tout le temps. Ça, c'est à la semaine longue. Maintenant, on a des produits récurrents comme les sauces pour les pâtes, donc les bolognaises, les puttanesca, les mac and no cheese. On les a en congelé, on les a en frais. On a aussi des végé pâtés. On a 2 sortes pour l'instant. On a un au curry et un nature. On a des humus, évidemment, on s'en sort pas. L'humus, c'est la vie. Ça, on en a comme pas mal tout le temps. Ça, c'est là à la semaine longue. Pendant les jours de la semaine, à l'heure du lunch, on fait des beaux sandwichs. On va chercher notre pain avec la gang des copains d'abord.
Wow!
Les gens qui veulent amenuiser le pain, on en fait aussi dans des tortillas, donc moins de pain, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui essaient moins de pain, parce que pendant la pandémie, je pense qu'on a fait de l'abus de pain pas mal tout le monde.
Oui, beaucoup de pain et de pâtes.
Et ça, c'est pas mal tout ce qui est grab and go.
Parfait!
Une fois par semaine, tous les vendredis, je sors un menu pour la semaine qui suit. Je fais un plat par jour.
OK.
Et ces plats-là, ça change à chaque semaine. Et dans ces plats-là, il y a toujours 2 salades repas et 2 sortes de soupes. Donc, le lundi et le mercredi sont les journées où est-ce que je sors le plus d'affaires. Le lundi et le mercredi, donc, je sors une soupe, une salade repas, un repas. Le mardi et le jeudi, je ne sors qu'un repas. Donc, un repas le mardi, un repas le jeudi, mais il n'y a pas tout l'agrément de salade et de soupe.
OK.
Se joint à tout ça, évidemment, les biscuits, les desserts qui sortent et qui changent à toutes les semaines. Par contre, en boutique, on va retrouver aussi des produits récurrents de plus en plus du côté du sucre. Donc, on va avoir des biscuits avoine, amande, canneberge, on va avoir des biscuits chocolate chip en paquet de 6. On fait des belles petites biscottes. On va nous sortir aussi des brownies, des belles danoises, puis tout ça. C'est pour l'instant, comme je disais, on est encore en train de tâter le pouls. C'est mes merveilleuses petites clientèles, à savoir qu'est-ce qui les rend heureux. C'est clair que, bon, les brioches, les danoises, tout ça, ça rend tout le monde fou, les brownies aussi. Et c'est un classique, je pense qu'à peu près tous les restaurateurs véganes à Montréal ont tous leur façon de faire leurs brownies, ont tous une offre de brioche, mais bref, nous, on fait ça aussi. Donc, en boutique, il y a toujours quelque chose de prêt du côté du sucre aussi. Et donc, les plats, le plat du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, le vendredi, on cuisine pas. On écoule tout ce qu'on doit écouler. Et tout ça, c'est dans un but, moi, de jamais, jamais, jamais gaspiller.
C'est une belle valeur.
Moi, j'ai un gros problème avec le gaspillage. Ça, c'est vraiment l'affaire qui m'énerve le plus au monde. Donc, on va faire affaire à partir du mois d'avril aussi avec Too Good To Go pour s'assurer que les restants du vendredi soient bel et bien partis quand on ferme le vendredi soir. Mais entre-temps, le vendredi, souvent, tout, à partir d'une certaine heure, tout est rendu à 50% pour s'assurer qu'on vide bien nos petits frigos en avant et qu'on part en neuf le lundi. C'est la façon dont on fonctionne depuis le début. Évidemment, à un moment donné, on pense bien nourrir le samedi parce que les gens nous le reprochent un peu d'être ouverts seulement du lundi au vendredi. Mais bon, à un moment donné, je ne veux pas non plus être ouvert et servir deux personnes, c'est un peu tristounet. Mais c'est clair qu'avec le beau temps, notre horaire va changer. Donc, on va ouvrir le samedi. Puis, on va avoir évidemment un peu plus de production, donc être capable de remplir les frigos jusqu'au samedi, tout ça. Mais pour l'instant, comme je disais, on est beaucoup dans le côté pragmatique. On cuisine assurément ce qu'on pense qu'on va être capable de vendre. On n'a pas encore ouvert les portes, on n'a pas encore mis un petit panneau dehors qui dit « Bonne bouffe ici », on n'a pas encore mis notre pancarte en haut du magasin, on est tout en train de gérer ça encore pour attirer un peu plus le monde. Ben c'est clair que pour l'instant, on se fait découvrir par les gens du quartier. Et ça, c'est ma grande joie à moi.
Mais c'est sûr.
Aller faire plein de millions de salamalettes pour essayer d'attirer les gens vers nous, bon, c'est un travail de tous les jours. Si on veut aller plus loin, ça prend beaucoup de sous. T'sais, la publicité, tout ça, ça prend un budget assez solide. T'sais. Mais moi, ce qui me plaît, c'est qu'on est vraiment dans un désert alimentaire total, là où est-ce qu'on est. Il y a un McDo en billet, il y a un petit monsieur et une petite madame qui vendent des banh mi l'autre bord de la rue. Point barre. Il n'y a que des condos autour de notre place. Il y a plein de gens qui travaillent autour. Et tout le monde sont comme « Hé, il y a une épicerie ici! Oh mon Dieu, c'est donc bien le fun! » Fait que ça, c'est génial. Fait que là, on est en train de rentrer aussi, comme on a fait l'été dernier, on a testé avec nos amis maraîchers qui nous amenaient du stock. On faisait un petit marché tous les samedis après-midi.
Oh wow, c'est bonne idée, ça!
Ouais, fait que là, on s'est dit, ouais, ça marchait quand même assez bien. Les gens venaient nous acheter. Ils se demandaient un peu ce qui se passait parce que c'était encore le café des Campi qui était là. Donc, c'était un peu comme mélangeant. Mais là, l'été prochain, comme le long de la bâtisse, c'est un long parking et c'est nous qui en avons, qui pouvons l'utiliser. Et on va l'utiliser pour continuer à faire la vente des légumes avec des maraîchers. Leur donner un point de vente en ville, une fois par semaine, les samedis, mais aussi vendre leurs produits en magasin. Parce que le but, c'est d'avoir des maraîchers qui ont du bio puis de vendre des beaux légumes de saison. Et c'est pour ça que là, quand on rentre dans le magasin, c'est clair qu'il n'y a pas de légumes à vendre en ce moment. On pourrait bien sortir une table. Puis on a essayé au début, mais je me suis dit, ah, c'est un autre frigo. Ça veut pas. Tu sais, les gens vont quand même au marché de Jean Talon. Les gens ont leurs petites habitudes quand même, tout ça. Fait que on va attendre que ça soit la belle saison, que ça soit facile, que les gens rentrent puis qu'ils fassent comme, oh mon Dieu, les beaux légumes, puis qu'ils aient comme pas le choix d'en prendre, plutôt que juste essayer de faire en sorte que d'envoyer le message qu'on vend, on va vendre des légumes là, cet été, là. Fait qu'on vous en vend un petit peu, là, ça vient du Mexique, mais bon, j'essaie d'être le plus local possible.
Ben oui.
À partir du mois de mai, je veux dire, ça a commencé les asperges, toutes les belles petites verdures tendres, j'ai trois maraîchers avec qui je fais affaire, c'est tout du bio, c'est tout du monde qui travaille super fort, qui ont souci de détail, qui ont des beaux légumes, tout ça, fait que je préfère marcher aux saisons. Puis à partir du moment où est-ce que mes maraîchers ont quelque chose, boum, on met ça en magasin. Puis ça va devenir quelque chose de récurrent. Les gens vont pouvoir acheter des légumes tant qu'il y en aura. Puis quand l'hiver va arriver, ben écoute, on mangera des conserves.
Mais l'été, ça, c'est une bonne idée de... Bon, premièrement, ça serait une bonne idée d'ouvrir le samedi pour le côté d'avoir des sandwichs, des salades et tout, parce qu'il y a un parc en face, je me trompe pas.
Et voilà. Fait que là, ça, c'est l'autre affaire. Puis, on se frotte les mains comme ça, on fait « le parc! » Qu'est-ce qu'on peut faire? Là, le parc, nous, on a aussi toute une autre vision pour le parc. Évidemment, ça va être l'été. Les gens vont avoir besoin de rafraîchissement. Donc,
ben oui!
les limonades vont se vendre pas mal plus. Donc, c'est toutes des affaires que tu dois t'adapter, auxquelles tu dois t'adapter sans cesse. C'est clair que là, une belle limonade fraîche, quand tu fais moins 20, ça te tente moyen. Puis moi, je ne vends pas de café, je ne vends pas de thé. Parce que je me dis, l'offre dans Rosemont, la petite patrie, est telle que je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais apporter de plus.
Oui, c'est ça.
C'est déjà que Café des Camps, il va avoir son beau café pas loin. Il y a une autre petite boulangerie pas loin. Il y a Aux Deux Sœurs, il y a plein de places. Il y a Café Pista. Je veux dire, ça n'arrête plus les bons cafés. Il y a tous les cafés sur la rue Saint-Laurent. Je veux dire, bon. Fait que là, ça, c'est, on a mis une croix là-dessus, mais on s'est dit cet été. Watch out les smoothies, watch out les limonades, on va en avoir plein de sortes, on va en vendre à la bouteille, on va en vendre au verre, mais aussi, à partir du mois d'avril, on va avoir du vin.
Ah, OK.
On va faire un genre de partenariat avec nos voisins, en fait, qui sont une compagnie d'import-export de vin. Ils ont une super belle gamme de vin nature et de vin vegan, alors on va prendre ça en boutique. Et bien, qui dit bouteille de vin dit pique-nique. Alors, pourquoi pas aller faire un pique-nique dans le parc en face avec des bonnes sandwiches?
Voilà. J'allais justement dire que ça serait tellement le fun qu'à la boutique, il y ait des paniers pique-nique.
Des paniers, mais oui, ça, c'est l'affaire la plus cool ever, là. Mais c'est sûr, il faut juste que les gens soient disciplinés puis qu'ils rapportent leurs affaires.
Et que, ouais, c'est
ça. Quand on a affaire avec plein de sortes de monde, bien, on dirait que 75% des gens font la bonne affaire. L'autre 25, il faut le gérer. Puis même, j'ai des appréhensions face à ces affaires-là. Puis je connais des gens qui ont eu des expériences avant moi puis qui ont fait « Oh my God, Katou, peut-être que c'est pas fait pour toi avec ta patience légendaire.
» Mais honnêtement, dans la communauté végane, il y a vraiment un moyen d'aller chercher d'avoir de la visibilité sans nécessairement payer de la publicité, parce que juste avec les groupes Facebook vegan comme les Vegan Manges, quoi, puis tout ça, là,
ouais.
Honnêtement, moi, je savais même pas qu'il y avait une boutique, puis juste le fait, si, quand ça va encore plus se développer, mais soit de le partager dans les groupes ou quoi que ce soit, ou de passer, ça pourrait vraiment fonctionner. Hein.
Mais ça, je le fais déjà. Puis, je me suis rendu compte que les groupes aussi, peut-être que je me trompe. Dis-moi si je me trompe. J'ai beaucoup partagé sur Vegan Montréal, Montréal Vegan, les Vegan Mangent Quoi, tout ça. J'ai évidemment annoncé mon ouverture, j'ai envoyé les liens, tout ça. Puis il y a des fois, ça a passé moyen. Il y a d'autres fois qu'il y a des gens qui étaient super contents. Toujours un truc un peu sketchy que d'annoncer une entreprise sur des groupes de partage.
Ah ouais.
C'est comme, bon, la journée que, disons, que M. Georges Larac avait fait son gros défi de faire plein de lunch vegan pour les gens en état d'itinérance dans la ville de Montréal, tout ça, suite à une espèce de blague niaiseuse qui a viré en défi. Je me rappelle que tout le monde, on essayait de mettre une espèce de lien comme quoi on amenait de la bouffe pour le défi de Georges. Et puis qu'on mettait le lien pour nos sites. Puis on se faisait chicaner par les administrateurs de page. Vous n'avez pas voulu faire la publicité, là, là, là. Fait que là, je me suis un peu rétractée de tout ça. Mais une fois de temps en temps, je vais faire des quiz sur ces pages-là. Et ça, c'est, je le fais une fois de temps en temps, puis je me permets un petit lien vers mon site.
Mais la technique, en fait, bon, premier point, c'est que moi, je suis juste sur les Vegan Mangent Quoi, parce que sur les autres groupes, il y a toujours du drame. Il y a tout le temps, les gens sont souvent susceptibles, puis ils vont attaquer pour des petites niaiseries, puis ça, j'étais plus capable, donc je me suis enlevée de ces groupes-là. Mais aussi, l'autre point, c'est que c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le droit de faire de la publicité, c'est un peu...
Ouais.
Mais par contre, les gens peuvent faire de la publicité pour nous. Enfin, par exemple, moi, je pourrais aller à la boutique, puis là, j'en parle sur les Vegan Mangent Quoi, puis ça, c'est correct. Fait que c'est ça que... Mais c'est drôle, parce qu'au final, c'est la même chose. Je sais pas pourquoi qu'on n'a pas le droit de nous-mêmes se promouvoir, mais en tout cas. Mais c'est ça qui est intéressant avec la communauté vegan, c'est que, exemple, comme les créatrices de contenu, les influenceurs, tout ça, là, dans le monde vegan, s'ils connaissent la boutique, bien après, ça va leur faire plaisir d'aller, d'y aller, puis après, d'en parler.
Oui, bien sûr, oui.
C'est ça qui est intéressant.
Ça, c'est très cute parce qu'on a une de nos clientes dont je tairai le nom parce qu'il ne faut pas que je le dise trop fort, qui est une influenceuse avec des millions de followers. Elle est tellement mignonne. C'est une gentille fille brillante, pleine de talent, pleine de une entrepreneure incroyable. Puis, à un moment donné, elle était chez des... Elle mangeait au restaurant de mon ami Cédric, le restaurant Umami Ramen.
Oui.
Elle disait « Ah, j'aimerais ça avoir des lunchs vegan. » Puis elle dit « Ah, va voir mon ami Katou, elle va t'organiser ça. » parfait. Donc, elle est arrivée sur notre site, elle a commencé à commander, elle a tout compris du premier coup comment ça marchait. Et là, elle a fait, OK, moi, dans la vie, j'ai un problème en ce moment. Je suis en train de vivre un grand déchirement. Je dis, mais voyons, Cocotte, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, j'aimerais juste ça parler de ta bouffe. Elle m'a dit, j'ai un contrat avec une grosse compagnie. Ça aussi, je ne vais pas dire le nom parce que... Mais j'ai un gros contrat d'exclusivité avec ces gens-là, puis je peux pas parler des autres. Nadie, ça me fend le cœur parce qu'elle dit je peux faire des petites stories, là. Je vais faire des petites stories de rien. Mais écoute, on va se le dire. Cette fille-là, la minute qu'elle dit miam miam, le pudding au chocolat de chez Cato Vegas, là, bang, j'ai 10 nouveaux abonnés. Je veux dire, ça paraît. Ils influencent. Moi aussi, c'est de l'influençage qui a de l'allure, puis qui sont fins, puis qui sont drôles, puis qui sont positifs. Puis, tu sais, why not? C'est formidable, tu sais.
Ouais.
C'est comme M. Larac, la journée qu'on lui a apporté, que mon chum était en train de regarder un live qu'il faisait, puis il venait d'attraper le COVID, puis il était à l'hôpital.
Ah, c'est vrai, cette période-là.
Mais il venait d'attraper le COVID, c'était au début, en fait.
Ouais.
Il se faisait un live à l'hôpital à moitié mort, puis il était en train de dire, ben là, j'ai un problème parce que tout ce qu'il y a ici, pour moi, en tant que végane, c'est des patates pilées.
Oh oui, oh non! C'est vrai qu'à l'hôpital, là, ça fait dur un peu, hein?
Ben là, mon chum, il a fait « Catou, voyons donc, viens entendre ça, ça n'a pas d'allure, là, on écoutait ça, puis là, on s'est regardé, puis on dit « On va aller porter de la bouffe pour petit. » Fait qu'on était en train de faire une commande pour plein de gens. On a ramanché 3-4 petits plats ensemble, on a mis ça dans un sac, on est allé à l'hôpital, on a monté ça en haut. Puis, il a fini par mettre la main sur nos sacs puis à manger la nourriture qu'on a eue. Puis ensuite de ça, quand il est reparti de l'hôpital puis qu'il est revenu à la maison, on lui en a apporté d'autres. Puis tout de suite, il a fait « Allez, laisse faire les cadeaux, là. Je dis, je veux pas de cadeaux. C'est combien, tout ça. » Fait que tout de suite, il a été dans l'achat proactif, là, là, là. Et là, il montrait nos plats à tout le monde pendant ses lives. Mais là, ça me faisait genre 10, 15, 20 nouveaux abonnés à chaque fois. Alors oui, ça fonctionne quand les gens parlent de nous.
Ouais.
S'abonner à mon compte et regarder mes photos et faire « Oh my God, ça a l'air bon », c'est une chose. S'abonner à mon site, passer des commandes, venir les chercher en boutique, c'en est une autre.
Exactement.
C'est difficile d'aller chercher les gens, de les amener vers nous. C'est pour ça qu'on proposait aussi quand même la livraison dans un rayon de 10 km à partir de la cuisine, ce qui nous amène quand même assez loin, tu sais. Puis sinon, ben on fait affaire des fois avec des livraisons quand les gens disent « Je m'en fous, ça coûtera ce que ça coûtera, moi je veux ta bouffe, ah ouais, let's go. » Ben on fait affaire avec la merveilleuse compagnie Génie.
Ah oui.
Qui est 1000 fois moins chère que tous les Uber et toutes les autres compagnies de livraison qui sont, tant qu'à moi, une grosse arnaque, mais bon, c'est pas grave.
Oui, ben ça revient cher, là.
Ben, c'est 30 à 35% de ta facture.
Oui. Ça paraît, là.
Je fais quoi, moi, là-dedans? J'ai travaillé gratis. J'ai pas payé j'ai à peine payé mes matières de base. Je comprends pas encore. On a élargi, si tu veux, notre... Donc, un peu, au départ, on était moins généreux sur le rayon de livraison, mais là, on l'a élargi un peu de 5. Ça aide aussi. Mais le pas entre... découvrir un endroit vegan, faire « Oh my God, wow, ça tombe à l'air bon », s'abonner, liker toutes les posts et devenir client, il y a un monde. Puis en même temps, ben, tu dis ben, les gens, de plus en plus, les vegans, ils essayent aussi d'apprendre à cuisiner.
Ouais, c'est ça.
Fait que c'est correct aussi de savoir cuisiner. Fait que moi, c'est clair que mon service s'adresse aux gens à bout de cuisiner. Ou qui n'ont pas le temps, ou qui ont envie de découvrir des nouvelles affaires aussi, tu sais, qui n'ont pas nécessairement plein de connaissances en cuisine, puis qui n'osent pas s'aventurer parce qu'ils ont des connaissances basiques, puis qu'à un moment donné, des pâtes au pesto, ça va faire, là, tu sais. Fait qu'ils font comme, oh, regarde, une fois par semaine, je vais aller me chercher un plat chez Catou, tu sais.
Ben moi, c'est ça que je me dis, parce que comme dans le projet que je bâtis, nous, on met l'accent sur la cuisine, mais... Je suis la première là, à encourager le prêt-à-manger parce que c'est pas réaliste non plus de cuisiner à tous les repas de la semaine pendant des mois. On a tous besoin d'un break. Et des fois, je me une semaine de break, là, je me prends du prêt-à-manger là, tous les jours, je m'en fous parce qu'il faut prendre ce break-là. Puis là, sachant qu'en fait, on m'avait aussi parlé de toi. C'est Marisol là, qui m'avait parlé de toi. De couleurs et végétaux, je la plug.
tellement merveilleux, c'est tellement beau ce qu'elle fait, oh mon Dieu.
Ah, c'est
parce qu'on a déjà travaillé ensemble sur des plateaux il y a 12 000 ans.
Ah ouais!
Oui, elle a fait une incursion dans le milieu du cinéma. On s'est croisés sur des plateaux, c'est comme ça qu'on s'est, entre guillemets, connus. Je n'oserais pas dire que c'est quelqu'un que je connais bien, mais on se verrait, puis on ferait ah oui, je le reconnais. Puis Marisol, ben c'est clair qu'à un moment donné, elle a vu passer mes affaires, elle me fait hey, mais c'est Catou des costumes, je la connais, elle. Puis bon, ben, on s'est fait des coucous, puis on a fait un genre de. On s'est retrouvés sur Instagram. Là, je suis tombée sur sa page, mon Dieu, j'ai failli faire un arrêt cardiaque tellement il y avait des belles couleurs partout. C'est tellement beau, ça a tellement l'air bon.
Ah ouais, c'est tellement beau ce café.
Dans mes millions de recherches, où est-ce que je voulais me faire inspirer un peu au tout début, je me disais, tu sais, quand je disais qu'il y avait beaucoup de desserts, ça, c'est une des pages que j'ai faites. Oh mon Dieu, oui, il y a des desserts, mais il y a des desserts et il y a Marisol.
Oh non, elle amène la game à un autre niveau. Là. C'est fantastique ce qu'elle fait. Puis c'est drôle parce qu'elle m'a juste écrit en privé et elle m'a dit « Tu dois vraiment essayer les plats de Catou Vega Club, justement. » Elle m'a dit « Faut trop que tu ailles voir ça. » Donc là, ça fait une couple de mois de ça. Fait que je m'étais abonnée, mais moi, j'habite à Laval. Fait que là, pour la livraison, ça ne fonctionnait pas. Mais considérant que là, on déconfine, que l'été arrive, je vais plus à Montréal, c'est sûr et certain que je vais venir à la boutique, qu'elle parte juste en face, aller faire un pique-nique, aller se pogner des affaires à la boutique. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Puis je pense que ça va amener plus de gens aussi parce que c'est pas tout le monde qui habite à Montréal. Donc, c'est sûr que ça vient comme limiter un peu. Mais de se dire que c'est un événement, c'est d'aller au parc, de se prendre des sandwichs, des boissons, de se faire un petit pique-nique, je pense que ça peut vraiment attirer des gens, là.
Les beaux desserts, puis tout ça.
Ben oui, les desserts.
Non, les desserts, on se le fait dire, là. C'est comme on crée des monstres, là. Je veux dire, là, quand on sort les Joe Louis, les gens deviennent fous, là.
Les Joe Louis. Oh, depuis tantôt, j'ai le sourire d'en face. On est, en ce moment, pour les gens qui nous écoutent, là, on est sur l'heure du souper environ quand on enregistre ça. Puis là, j'ai faim. De plus que tu parles de qu'est-ce que t'offres, plus que j'ai faim.
Puis on essaie de faire des plats aussi à... C'est très drôle parce que... Dans mon équipe, on est là maintenant. On a aussi la personne qui s'occupe de l'épicerie en avant.
Ok.
La sœur d'une cliente qu'on avait, qui elle aussi est devenue une cliente. Puis elle a une formation d'épicière, donc ça travaillait dans les épiceries depuis 6-7 ans. Et puis avant ça, c'était la reine de la roseraie du jardin botanique. Bon, bref, c'est une femme extraordinaire. Elle s'appelle Claire Laberge. C'est devenue un jour, elle est venue chercher sa commande puis elle a fait. Je lui ai demandé comment ça va, ma belle Claire. Ça va bien aujourd'hui? Elle a dit, oh, je t'ai cœurée de ma job. Elle dit, je travaille au marché métro. C'est un marché métro. Il n'y a rien qui va bien là-bas. Ça devient vraiment lourd. C'est où qu'on peut appliquer? C'est une formule, un formulaire d'application. Ben, j'ai dit, check bien ça. Au mois de. Je pense qu'octobre-novembre, on devrait ouvrir notre épicerie. Puis on n'a toujours pas réglé qui va venir s'occuper en avant. La personne qui devait venir s'en occuper. A eu un autre contrat beaucoup plus lucratif, plus dans ses cordes. On a fait OK, d'abord, bye, c'est bon, on trouvera quelqu'un d'autre. Puis bon, c'était bien correct comme ça. Et est arrivé l'ange Claire. Alors là, on a fait ben coudonc. Elle est engagée. Puis depuis qu'elle est rentrée, c'est le bonheur. C'est une employée modèle. Elle est super fine. Elle connaît nos plats. Elle en commande toutes les semaines. Elle a plein de connaissances. Elle est en train de finir son cours d'herboristerie. Plein de connaissances. Évidemment, l'épicerie n'a aucun mystère pour elle. Elle nous en apprend beaucoup. Et tu sais, comme je disais tantôt, c'est tous les jours qu'on apprend quelque chose. Il n'y a pas une journée où est-ce qu'on se pogne le beigne. Il n'y a pas une journée où est-ce qu'on n'apprend pas quelque chose de nouveau. Chaque journée apporte son lot de joie et de petites misères, mais ça reste que quand tu es bien entouré, c'est ça que j'ai dit. Elle dit philanthrope, Marie-Josée Dumont, Claire Laberge, Véronique Ruel. Je veux dire, c'est les meilleurs au monde en ce moment. On va se le dire. C'est moi qui les a. Voilà!
Oh là, on va tout être jaloux! Donc là, qu'est-ce qui s'en vient? Là, j'ai comme pour les proches, bien en fait, pour janvier, février, mars, c'était vraiment devenir plus structuré, de retourner un peu à la base. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois?
Prochains mois, prochaines semaines, bien évidemment, comme je disais, j'ai dans mon équipe des gens très, très attachés au protocole en général. Et donc, on n'a pas le droit d'une seule fête. Alors, évidemment, on a Pâques. Ce qui s'en vient, c'est le temps des sucres. Alors, dans les prochaines semaines, jusqu'à la fin du mois d'avril, on va jouer beaucoup là-dedans. On va continuer. Bon, évidemment, comme je disais, il y a le vin qui s'en vient. On va élaborer un petit peu plus. On va élaborer plus de sandwichs aussi pour l'heure du lunch parce qu'on ne veut pas. On en vend pas mal. Puis nous, c'est vraiment bon. Puis je me rends compte que les gens aiment ça, des sandwichs coudons.
Ah ouais, en tout cas, moi, j'aime bien ça. J'ai hâte de venir à la boutique juste pour ça, là.
Disons qu'on va, on va se concentrer là-dessus. On va se concentrer pour un peu plus de visibilité, évidemment. évidemment, derrière tout ça, ben, on continue de notre bord à essayer d'aller chercher toute l'aide qu'on peut aller chercher avec des subventions, tout ça. Le vin qui va rentrer au mois d'avril. Si tout va bien, on est en train d'élaborer un plan de boîte à lunch pour le mois de septembre prochain pour les enfants du primaire et les enfants du secondaire s'ils veulent, avec dans des boîtes réutilisables.
Ah, c'est une bonne idée.
On essaie de faire notre gros possible au niveau des déchets. On fait nos devoirs, c'est toujours concluant. On sait beaucoup replier sur l'aluminium, qui est comme finalement notre meilleure solution parce que c'est quelque chose qui qu'on peut recycler sans fin.
Ouais.
Tandis que les plastiques, bon, on essaie d'aménuser tout ce qu'on peut côté plastique, mais c'est encore assez complexe. Et puis, ben, tout ce qui est offert au niveau de l'emballage pour le prêt-à-manger ou le plat cuisiné, ben, si on n'est pas dans le plastique, si on n'est pas dans l'aluminium, on est dans plein d'offres qui sont bien cool, mais qui ne sont pas du tout solides puis qui occasionnent beaucoup de dégâts, de dégoulinures, de sacs défoncés. Bref, c'est pas encore tout à fait sous contrôle, cette affaire-là. Et tout ce qui est compostable n'est pas dans tous les quartiers.
Non, c'est vrai.
Que ce qui est compostable à Rosemont n'est pas nécessairement à Westmount et vice-versa. Bref, on essaye de rester le plus fidèle à nous-mêmes dans ce dossier-là, mais ce n'est pas un dossier facile à gérer. Et puis, je pense que j'annonce rien à personne en parlant de toute l'augmentation que la vie est en train de prendre en ce moment.
Ah oui.
Au niveau du produit de base, là, tu sais, genre les patates, les carottes, les oignons, là, c'est l'huile, les corps gras, l'emballage. On fait juste recevoir en ce moment des lettres de tous nos fournisseurs comme quoi tous les prix vont augmenter. Préparez-vous, les prix vont augmenter. Qui tu penses qui va payer ça en bout de ligne?
Ben, c'est ça. Si vous ne voulez pas augmenter vos prix pour les clients, vous allez payer en fait. C'est ça que c'est compliqué.
Mais c'est non, mais c'est pas compliqué. C'est impossible. La façon de faire, c'est d'en prendre un peu de notre bord puis d'en refiler aux clients. Il n'y a pas d'autre façon de le faire. D'ailleurs, à ce sujet, un des derniers posts de la belle petite compagnie Muscade sur la rue Mont-Royal, un bel exemple de ce que c'était que l'augmentation des coûts avec des beaux dessins, super clairs, super transparents, super bien décrits, et qui te l'explique pas comme si tu avais 2 ans d'âge mental, qui fait appel à ton intelligence. Là. Puis c'est vraiment des filles et des garçons qui font du beau boulot. Puis ils ont pris des décisions qui leur ont vraiment fendu le cœur. Puis moi, ben tu vois, en début d'année, j'ai augmenté mes prix parce que j'ai décidé que je voulais pas faire de ce qu'on appelle de la réduflation. Là. Ça, c'est l'affaire que je trouve un petit peu plate aussi. C'est que enlever une cuillerée à soupe de tout dans chaque plat pour en refaire un autre, je suis pas d'accord avec ça.
Non, c'est ça.
J'aime mieux vous dire, écoutez, là, le plat, ça cause que ça coûte tant, de plus, partout. Moi, je prends 1$, toi, tu me donnes 1$. On fait-tu un deal? Yeah, parfait, tout le monde est content, merci, bonsoir. Ça reste que, quand je fais le calcul par rapport aux quantités, c'est encore moi qui ai le moins cher.
Oui.
Alors, ça ressemble à ça pour l'instant. Fait que c'est ça qui s'en vient. On a des beaux projets. On veut vraiment profiter de l'été et du parc en face pour que les gens nous connaissent. Pour que les gens... l'été, on fait beaucoup plus de plats faciles à manger, froids. C'est moins des plats qui ont besoin d'être réchauffés tout le temps. Mais toujours une soupe froide l'été, tous les jours. Pas juste de la gazpacho dégueulasse à l'eau. Là. Il y a toujours des bonnes soupes froides, il va toujours y avoir des smoothies, des belles limonades, comme je disais, on va avoir d'autres trucs à boire, tout ça, mais on va faire nos belles sandwichs, on fait des beaux petits bols, comme des bols repas, on en fait comme 3-4 sortes, surtout l'été, là, comme je disais, c'est du grab and go, on va plus se concentrer là-dessus.
Mais oui.
Mais c'est ça, puis bon, on va avoir évidemment les légumes, ça j'ai bien hâte, nos fruits et légumes, ça va remplir la place pas mal, parce que puis on va avoir des fleurs aussi, j'ai un partenariat qui s'en vient avec une super fleuriste extraordinaire, puis on va avoir des belles petites fleurs, parce qu'on habite, on est quand même, on office devant une maison pour les gens âgés, ils ont beaucoup de visites, fait que je me dis, coudonc, des petites fleurs!
Ben c'est une bonne idée! C'est une bonne façon de nous faire connaître en même temps, d'avoir un kiosque devant. Ben là, les gens vont être curieux de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, puis ils vont rentrer dans la boutique par curiosité, puis finalement, ils vont tomber en amour.
Ben, j'espère bien, j'espère bien. On essaye de rendre ça sympathique. On essaie de rendre ça ludique aussi. On n'est pas là pour faire la morale à personne. Pas bonne pour expliquer ces affaires-là. J'aime mieux convaincre le monde avec des Christie de bons cupcakes puis leur faire faire la meilleure salade au monde. Puis ils repartent puis qu'ils disent « Ah, oh, je vais revenir » puis qu'ils mangent de moins en moins d'animaux pour en venir qu'ils en mangent.
Ben, je suis dans la même mentalité. Je pense que c'est une bonne façon pour aller chercher le plus de gens possible. Donc, j'encourage vraiment tout le monde à découvrir l'entreprise, aller voir la boutique. Là, même en ce moment, il commence à faire de plus en plus beau, de plus en plus chaud. Donc, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. Donc, merci vraiment pour la participation au podcast. C'était vraiment intéressant. Puis, j'ai aimé ça qu'on touche autant au beau côté qu'au moins beau pour voir que, ben, c'est quoi la vraie réalité là, derrière un début d'entreprise puis comment ça évolue à travers le temps. Donc, merci pour ton ouverture.
Ben, ça me fait plaisir. Il faut juste se rappeler que les journées qu'on a envie de se mettre en petite boule en pleurant dans notre lit, il y a toujours quelque chose de formidable qui nous attend dans notre bureau, dans notre cuisine ou dans notre magasin qui va nous faire rappeler, qui va nous rappeler qu'on n'est pas là pour rien et que chaque place qui ouvre, c'est parce que peut-être qu'on en a besoin, tu sais.
Exactement.
Moi, je sais que dans l'alimentation végane, il y a encore de la place pour plein de monde. Fait que tous ceux qui sont en train d'ouvrir, je les encourage à ne pas lâcher. Puis On va les avoir!
Il faut s'accrocher à notre patience, c'est sûr et certain. Là. Donc, merci vraiment, puis passe une belle soirée.
Merci, Émilie. Merci. Bye.
J'espère que vous avez aimé l'épisode de cette semaine et que les conseils de Catou vont vous aider dans votre propre parcours pour la suivre et pour l'encourager dans sa super entreprise. Les liens vont être en barre d'infos. Et justement, si vous êtes vous-même en lancement d'entreprise ou que vous y pensez, venez donc m'en jaser sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Peut-être que vous allez pouvoir même venir en jaser sur le podcast, qui sait. Dans tous les cas, ben venez donc jaser avec moi. Je suis bien curieuse de savoir comment ça se passe de votre côté, parce que c'est le fun de connaître un petit peu la réalité et de pouvoir même échanger des conseils à travers tout ça. Donc, je vous remercie pour votre soutien au podcast. Un petit partage sur les réseaux sociaux, c'est toujours super apprécié. Et vos bons commentaires aussi me font vraiment chaud au cœur. Donc, un gros merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!